Donc, on part en exploration à la Chartreuse. J'ai rendez-vous avec Barry qui m'invite à manger. C'est un immense complexe du XIIIe siècle et des siècles suivants d'ailleurs, avec des dédales de cloîtres, de couloirs, d'escaliers, et je suis perdue. Ah, le voilà, justement.
C'est toi que je cherche.
Tu me cherches ? Je suis là. Oui, ça va, et toi ?
Alors déjà, pour te présenter, je sais même pas comment t'appeler.
Paris.
Mais sur les programmes, par exemple, j'ai écrit Mohamed Barry.
J'en fous.
Bon, Barry.
Moi. On dit ça, moi. D'accord. Moi, Je sais pas où on me situe en fait. C'est vrai, je te jure. C'est drôle. Je sais pas si je suis quelqu'un qui fait des choses bien ou quelqu'un qui fait des choses pas bien.
Et qu'est-ce que tu fais ?
Je sais pas.
Mais si.
Mais c'est vrai, c'est bon. Vrai. C'est...
Tu es en résidence à la Chartreuse.
Oui.
La Chartreuse, c'est le Centre National Français des Écritures du Spectacle.
D'accord.
Je savais pas. Ici,
ici, je suis en train d'écrire un texte. Qui s'intitule Je vais devenir. Je voulais être kamikaze, moi, danseuse du ventre. Quand je suis arrivé ici, j'avais déjà un texte, comme j'avais dit tantôt, tu vois, c'est. J'avais déjà un texte. Commencé. J'avais deux, trois scènes, je crois, en plus. Et. Je me suis rendu compte que j'étais bloqué dans l'écriture, dans le sens où je devais faire attention à pas. À ne pas juger. Tu vois, quand on raconte une histoire, c'était pas une histoire, alors c'était quelque chose que je devais inventer, une histoire, mais en même temps, inventer une histoire sans faire préjudice, on dit ça ?
Porter
préjudice à quelqu'un, ça veut dire les gens de chez nous, les Arabes, les musulmans, et sans dire aux gens, ça veut dire qu'un texte ne va pas convaincre plus ceux qui sont déjà convaincus. C'est ça que j'essayais de ne pas tomber dans le truc où les gens qui sont déjà convaincus vont venir dire « Oh oui, c'est vrai, c'est comme ça. » Et les gens qui ne sont pas tout à fait convaincus vont dire « Oh putain, ils sont fous ces gens-là. Ils sont malades, ils sont sauvages. J'avais pas envie de ça. Parce que moi, je fais partie de ces gens. » Tu vois, je veux dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas sauvage. C'est pour ça que je suis parti de moi. J'ai laissé tomber ce texte qui était avec deux personnages. J'essaie d'écrire maintenant un texte avec un seul personnage. Et en plus, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui parle.
Donc tu écris du théâtre ?
Ou tu pas dis forcément. Du théâtre ? Pas forcément. Oui, j'écris du théâtre. Moi, je suis pas. Je me dis que je suis un raconteur d'histoires.
Comment devenir un homme? J'avais 14 ans. Je sors de chez moi, je vois mes trois amis qui m'attendent sur le coin. Ils me disent, nous, on sait qu'on est des hommes. Et toi, on a des doutes. Alors ils me disent, tu dois nous prouver que tu es un homme. Tu dois montrer si tu as des poils sur ton zizi. Je montre. C'est pas assez, ils disent. Allez, montre si tu as du poil sur le torse. Je n'avais pas un seul poil, rien. Alors elle me demande de soulever une barre avec 50 kilos de chaque côté. 100 kilos. J'avais 14 ans. Hein. Je n'ai pas arrivé à la bouger. Normal. Il te reste une dernière chance. Tu dois te masturber et revenir nous montrer ce qui est sorti. On t'attend ici. Vas-y. Je dis, comment je dois faire? Ils m'ont dit que c'est simple. Un peu de savon et penser au cul de Fatima. Alors, je rentre chez moi, je remplis la petite bassine d'eau, je prends du savon et je m'enferme dans les toilettes. Le cul de Fatima, le cul de Fatima, le cul de Fatima, le cul de Fatima, ça marche pas. Ah, le cul de Fatima, le cul de Fatima, le cul de Fatima. J'entends ma mère, ça va fils? Oui, ça va maman, le cul de Fatima. Ça a marché. Tout est sorti vite, tout est parti. J'avais plus rien à montrer à mes amis. Comment je vais faire? Je repense une deuxième fois au cul de Fatima. Alors, je mets ce qui sort dans la main et je cours vers mes amis. Je suis un homme. Hein? Je suis un homme. Ok, tu es un homme. Tu dois te comporter comme un homme. D'accord? Oui. Fini les dessins animés. Tu dois regarder l'inspecteur Derrick. Être fort, pas pleurer, avoir des muscles, pouvoir faire l'amour plus que 6 fois à une femme. Avoir un grand zizi, manger beaucoup, ne jamais essuyer la vaisselle, ne jamais nettoyer les escaliers, cracher dans la rue, sortir quand tu veux, jusqu'au tard, le soir si tu veux. Regarder le cul des femmes, sauf celui de ta sœur, de ta mère, et la sœur et la mère de tes amis. Hein? D'accord. Et je sens comment mon zizi commence à me piquer. À l'intérieur, il pique. Je dis, ah, ça pique. Et ça pique très 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 fort, j'ai mal. Je dois pas pleurer, je suis un homme, je dois pas pleurer. Oh maman, j'ai mal! On a été à l'hôpital. Ils ne m'ont pas accepté. Fuck la misère. En sortant, une infirmière s'approche de ma mère, elle lui dit, ton fils s'est masturbé avec le liquide pour vaisselle. C'est pas la première fois que ça arrive, on a l'habitude ici. Il doit souffler sur son zizi toute la nuit et ça passera. Fuck la misère.
Tu vois, quand je suis devant mon ordinateur, c'est très compliqué pour moi d'écrire. J'ai un magnétophone et j'utilise souvent. J'écris dans mon lit. Je marque en tout. Et après, je fais le boulot. 3 fois, ça fait 11 dire, enregistrer, écouter, taper. Il y a des gens qui vont à l'ordinateur, c'est facile. Moi, pour écrire un petit bout de texte, ça prend des semaines. Et après, je dois le travailler sur l'ordinateur, le retravailler, faire des phrases, des choses, et construire un vrai texte. Même si des choses que je raconte sont orales, on dit, quand même, j'ai une notion de dramaturgie. J'essaie de toujours de faire le... Voilà, construire un texte, c'est de... faire une préparation, et t'as le climax, chute et la résolution. Voilà, j'essaie toujours de faire ça, mais je le fais dans ma tête sans le penser. Et toujours mes histoires sont comme ça. Et ce que j'adore, moi, dans les histoires, c'est jouer avec le public. Et c'est ça, les conteurs, ils sont forts. Et tout le monde, par exemple, il te montre dans sa... Parce que c'est lui qui guide tout. Hein. Un conteur, c'est lui qui gère tout le bazar. Il sait, il connaît très bien son histoire. Alors, il te montre cette main comme ça, mais il a encore un truc caché ici. L'histoire, t'as l'impression que c'est fini. Je vais raconter, par exemple, l'histoire de Zizi. Avec... il dit, voilà, elle a fait ça, et c'est fini, voilà, tu es devenu un homme. Mais il y a encore après la chose qui vient, que ça va jusqu'à l'hôpital. Et je veux dire, cette construction-là, j'adore ce genre de construction. Ça n'arrête pas. Et parfois, je fais ça quand j'ai un texte, je l'ai enregistré, et je dis, ah oui, ça s'arrête là. Je vais le pousser. Tu vois? Et le fait de le pousser, ça fait que ça grandit et ça devient encore plus riche. Parce que parfois, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent quand je sais la fin de mon histoire. Tu vois, je sais les débuts, la fin, et je fais quoi? Le train TGV, je m'arrête pas. Je raconte l'histoire pour arriver à la fin. Ici, je connais pas la fin. Ce qui m'a permis de s'arrêter à chaque scène et de vraiment essayer de l'allonger, la développer, de pas juste vouloir arriver à la fin, quoi. Parce que ouais, la fin est magnifique, je la trouve chouette. Alors tu sais que moi, c'est une histoire magnifique, parce que la fin est magnifique. Et tu y vas vers la fin. Je sors de chez moi. Je sors toujours de chez moi, moi. C'est bizarre. Chaque fois, je dis je sors de chez moi, de mes textes. Il faut sortir de chez soi pour commencer à faire quelque chose. Chez nous, ça se passe comme ça. Les gens font les choses à l'extérieur. À l'intérieur, il ne se passe rien. Il se passe des choses, mais on ne le voit pas. Alors, il n'y a personne qui me parle. Ça reste à l'intérieur. Tout est fermé. Je sors de chez moi. Je vais vers mes amis. Omar, c'est le chef. Il dit, Hitler a dit, si j'avais des armes américaines, une organisation française, une armée marocaine, je cognerais sur le monde entier. Il faut qu'on fasse notre armée. Moi, j'ai dit, est-ce que Hitler a appris l'arabe? Allez, on s'en fout. En tout cas, il a dit ça. Il faut qu'on commence à fabriquer des armes. Je dis, on va se battre contre qui? Je sais pas, on va trouver par exemple ceux qui ne sont pas avec nous. Il ne faut pas poser trop de questions, toi. Hein. L'armée, c'est l'armée. Ou bien avec nous, ou bien contre nous. Hein? On va fabriquer une bombe. On prend un bidon d'huile le sieur. Vous connaissez l'huile le sieur? Un bidon de 5 litres vide. On met 1 litre d'eau. Et on met 200 grammes de carbone. Je ne sais pas si vous connaissez le carbone, c'est une poudre blanche chez nous au Maroc qu'on utilise, qu'on mélange avec de l'eau et on met un tube et on peut allumer, on peut s'éclairer la nuit. Et dans le bidon, il y a 200 grammes de carbone avec 1 litre d'eau. On mélange. On ferme d'abord, on ferme le bidon, il faut le fermer. On secoue très très bien pendant 5 minutes. Et après, on fait un trou dans le bouchon, un petit trou, et on le ferme tout de suite avec le pouce. On allume une allumette. Il y a toute une petite lumière, un petit feu qui s'allume comme une bougie. On a juste le temps de s'éloigner. 1, 2, 3. Il se passe rien. Omar dit, mais que quelqu'un aille voir. Vas-y, vas-y toi, vas-y. Personne n'a osé bouger. Vous êtes une armée de merde, il dit. Et lui, Omar, s'approche du bidon. Il le bouge avec son pied. Il ne se passe rien. Et il se retourne vers nous comme un soldat qui vient de faire exploser une maison avec des gens dedans. Poum. 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 Omar n'avait plus de cils, plus de cheveux, plus de sourcils. Partout, ses poils avaient cramé. Il sentait la tête du mouton crier.
Il a dit qu'il lui restait encore des poils près de son zizi. Mais je n'ai pas vérifié. Omar, tu m'entends? Omar, tu m'entends? Ça va? Je sais que tu vas t'en sortir, Omar. Je suis ton meilleur ami. Tu le sais. Écoute, Omar, je prie pour toi. Je prie pour toi. Qu'Allah te sauve, qu'Allah te garde, qu'Allah te donne la force. Je vais mourir à ta place, Omar, Omar. On est allé à l'hôpital. Elles ne l'ont pas accepté. Fac la misère. À la sortie, une infirmière nous approche. Parfois, le carbone est froid. Alors, la bombe met du temps à exploser. C'est pas la première fois que ça arrive. On a l'habitude ici. Il faut mettre de l'huile le sueur sur tout le corps pendant 10 jours. Et ça ira. Et il vaut mieux que, si ton ami sort à l'extérieur, il vaut mieux qu'il mette des lunettes de soleil, c'est parce que c'est pas beau à voir.
Tu peux me parler du spectacle que tu vas jouer à Marseille?
Ah oui. C'est un spectacle qui était... Il a commencé en 2006.
Moi, je voulais... J'avais proposé, fait une proposition à un monsieur qui s'appelle Didier Denex. C'est lui le directeur de théâtre de la Galafronie. C'est un grand ami à moi. Je lui avais dit que j'étais au Maroc. Parce que quand je suis retourné au Maroc, ma grand-mère est morte. Et elle était enterrée dans ma grand-mère, ça va dire la maman de mon papa. Elle était morte et on l'a enterrée dans son village natal. Et le village, c'est le village de mon père, là où il a grandi. C'est un village à 20 km de Marrakech. J'ai passé beaucoup mon enfance là-bas aussi. J'allais donc pendant les vacances scolaires. Mais quand ma grand-mère est morte, quand mon père a hérité un morceau de terre, un petit morceau, il m'a dit, je te le donne. C'est ok. Alors j'étais visiter la tombe de ma grand-mère. Je suis retourné au village. Tout à coup, j'avais l'impression que j'étais là depuis toujours dans ce village. Et c'est un village tout rouge, tu vois, construit avec de la terre rouge. Et la maison de ma grand-mère, là où j'ai vécu, il y avait juste un mur. Et je me suis installé sur le mur et tout à coup j'ai dit oui, j'ai envie de parler de ce village. Et de raconter mon enfance dans ce village. J'ai commencé à écrire des choses sur les gens que j'avais croisés il y a longtemps dans ce village. Et j'ai proposé tout ça à Didier Denec. Mais on a beaucoup travaillé parce que c'était une écriture presque à trois. J'écris les idées, les grandes idées, j'avais tout le truc, mais l'évolution du projet, on l'a fait beaucoup à trois parce qu'il y a un autre comédien qui joue avec nous. On joue à trois, il y a trois comédiens, trois musiciens. L'écriture, on l'a fait à trois. Ça veut dire qu'eux aussi m'ont ramené des choses, ils faisaient des réactions sur mes textes, ils pouvaient couper dans mes textes, ils disaient que ça marchait pas. Parce que c'était plutôt, on voulait pas. L'idée, moi au début, ça m'a complètement déstabilisé. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, j'ai compris le principe, c'était en fait. C'était comme. On était vraiment dans un village, nous trois, à vivre ensemble et s'engager dans un spectacle et à respecter la sensibilité des autres et se confronter et de ne pas séparer et d'être là. C'était vraiment ça. C'était plus qu'un texte, c'était un spectacle, une veillée. C'est ça qu'on voulait. Il y avait trois musiciens aussi qu'il fallait faire attention à les mettre dans le jeu. C'est pour pas écrire un texte comme ça et intégrer les musiciens après. Ça fait un peu l'illustration. On a écrit avec eux aussi. Du coup, c'est un spectacle veillé. Si on assiste à quelque chose, c'est pas une histoire comme je raconte. Tu vas voir si tu viendras le voir. C'est tout à fait ouvert. C'est comme dans le temps ici aussi. Il y avait chez nous, il y avait des soirées comme ça où les poètes, celui peut lire un poème et l'autre peut lire un bout de cette histoire. L'autre, on a essayé de faire quelque chose de comme ça, dans cet ordre, de passer une soirée et écouter des choses sans avoir l'attention de dire des choses. Mais la plus importante ici, que je trouve, après j'ai réalisé que c'est une super manière de présenter la culture. C'était très
Pour moi, à la fin, j'ai dit merci à Didier parce que j'ai dit je m'attendais pas à voir un regard vraiment positif sur ma culture. Moi-même, je la connais. J'avais pensé faire de ça. Mais c'est pas dire que c'est beau chez nous, mais c'est juste un autre regard pour montrer les gens qu'ailleurs, on peut aimer autrement, on peut raisonner autrement, on peut se fâcher autrement. Ça m'a beaucoup touché de montrer ce côté sans le critiquer, ni dire que ces gens ils sont un peu barbares, ils sont encore primitifs. Tu vois ce que je veux dire? C'était côté, ailleurs ça se passe autrement. C'est ça qui m'a plu dans ce projet. Et ça parle d'une histoire d'une petite fille qui perd sa première dent de lait. Alors elle se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà. Elle fait le tour du village pour découvrir le village. Et tout le monde fait le tour avec. Les trois comédiens, les trois musiciens. Elle se balade. Le public aussi.
C'est aussi pour les enfants?
Oui, c'est à partir de 6 ans. Voilà, mais nous, on a vraiment insisté sur ce rapport intimiste avec le public. Que ça reste calme. Que ça va. Parce que plus le public est nombreux, plus on doit plus gueuler, porter la voix. Et ça, on sort de cette notion d'intimiste, de veiller, de soirée, d'être ensemble, d'être cool. D'avoir beaucoup de temps, parce que dans le village, là on va, le village rouge, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, tout le temps. C'est cool. Ils ne se préoccupent pas du tout. Voilà.
Est-ce que tu envisagerais de pouvoir jouer ce spectacle au Maroc?
J'aimerais bien, parce que aussi de voir qu'il y a des Belges et des Occidentaux qui jouent vraiment dans un spectacle, qui parlent de leur pays, c'est vraiment un... C'est parce que nous, on n'a jamais vu des gens de l'extérieur jouer notre propre truc. Tu vois, on voit des gens qui jouent leur propre truc, mais nous, on joue le truc des Occidentaux. Ici, c'est différent. Il y a deux comédiens qui sont belges, et un musicien belge, il y a deux musiciens marocains, qui jouent un truc qui vient de chez nous, et qui parlent de... Je pense que ça va leur faire beaucoup de bien, de faire un peu de confiance. D'avoir confiance en eux, de leur culture, de ce qu'ils sont. Mais je vais voir avec... c'est un appel aux gens qui connaissent le Maroc de venir voir le spectacle et dire voilà, on va le prendre au Maroc. S'ils ont envie. S'ils aiment bien le spectacle, je pense qu'ils vont bien, non?
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
On va passer à table.
Merci.
De Barry par le théâtre de Galafroni sera au théâtre Massalia à Marseille du 23 au 25 février 2010.